Un rendez-vous avec Bernadette Loison et Anne-Sophie Chaubaud. Bonjour Bernadette.
Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous.
Alors le thème ce mois-ci pour février, Bernadette, ce sont les...
Les cartes postales, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs de cartes postales, des cartophiles, et c'est vrai que la cartophilie dans les brocantes est très présente. Il y a ces petits bacs où les cartes sont très très serrées.
Alors, quelle est la fonction première d'abord de la carte postale ?
Alors, au départ, c'était principalement pour envoyer un message et sans enveloppe. D'ailleurs, pendant très longtemps, les administrations avaient deux sortes de timbres. Il y avait le tarif carte postale qui était un peu moins élevé et puis il y avait la lettre habituelle. Dans les années 1900 à 1920, ce sont les années d'âge d'or de la carte postale. Et l'usage en était pratiquement quotidien. On a du mal à se l'imaginer maintenant, mais c'était avant l'arrivée du téléphone.
En fait, c'était pour envoyer une petite missive, comme maintenant on envoie un SMS.
Exactement pareil, mais c'était sur un bout de papier. Il n'était pas rare d'utiliser d'un quartier à l'autre de la même ville pour se donner rendez-vous le lendemain. Donc effectivement, c'est juste ce que tu dis.
Et c'est vrai qu'à cette époque-là, la poste, le courrier, était diffusé plusieurs fois par jour.
Voilà, aussi. C'est ça. Ça passait le matin et puis aussi l'après-midi. Alors, pour l'histoire de la carte postale, ce qu'on peut dire, c'est que si l'Angleterre fut le berceau du timbre-poste, notamment en 1840, l'Autriche fut celui de la carte postale. C'est le docteur Heinrich von Stephan, qui était directeur général des postes et fondateur de l'Union postale, qui, en 1865, propose pour la première fois la carte postale. Et alors, au début, la Croix-Rouge s'en est beaucoup servie pour... communiquer des nouvelles des personnes pour les secours aux blessés, en fait.
Alors, effectivement, en France, on a vu l'apparition, surtout dans les années 1870.
C'est ça. Et justement, le 12 août 1870, la ville de Strasbourg était assiégée par le général von Werder et il refusait toujours de se rendre. Alors, le comité strasbourgeois de la Société des secours aux blessés, qui possédait tout un stock de ces cartes dont je vous parlais, propose au général prussien de laisser les blessés et les assiégés communiquer avec leur famille. Et ma foi, le général accepte parce que c'était affranchi en timbre prussien.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après, justement, des postes sur la France dans les années 1870 ?
Alors, dans les années 1870, eh bien, ça a beaucoup servi comme ça. C'était des envois ouverts et ils pouvaient s'adresser au destinataire d'un côté et de l'autre côté, on écrivait. C'est ça qui est très curieux parce que quand on retrouve maintenant...
Alors, justement, Bernadette, c'est dommage, on n'a pas l'image, mais Bernadette nous a apporté au studio des cartes postales.
Oui, ancienne. Et on s'aperçoit qu'on prenait toute la place derrière pour noter l'adresse. Ce n'était pas encore divisé en deux parties. Ce qui fait qu'on écrivait...
Sur la partie photo ou la partie illustrée.
Voilà.
Et on a les petits commentaires, c'est assez amusant.
Et donc après, à ce moment-là, on l'a coupé en deux... à partir de 1875, et les premières illustrations étaient en fait des petites images publicitaires. Il y a notamment le magasin à la Belle Jardinière qui ont reproduit des photos de leurs immeubles de la rue des Ponts-Neufs à Paris. Et ça a acquis très vite, ça a marché très vite auprès des gens, ça a acquis ses lettres de noblesse, notamment pour l'exposition universelle de 1889.
Alors là, justement, on a toute une série, la carte destinée, ben c'est effectivement la Tour Eiffel, hein, qui est déjà célèbre en 1889, qui sera vendue jusqu'à 300 000 exemplaires. Oui. Donc elle était déjà à la mode
Très très vite.
À cette époque.
Très très vite, elle était devenue à la mode très très vite. Et puis il y a donc, comme je le disais tout à l'heure, ce tournant avec la division du recto en deux parties. L'histoire de la carte postale, on peut dire que c'est le début du XXe siècle malgré tout, entre 1900 et 1920. Et plus particulièrement, je dois dire, pendant la Première Guerre mondiale, qui voit les autorités militaires en encourager son utilisation parce que ça facilite le travail de la censure. Dès qu'il n'y a pas d'enveloppe à ouvrir, on
mais c'est plus rapide. Hein.
C'est plus rapide. Et puis très vite, il y a eu un déclin à partir des années 1920 parce que la production était de moins bonne qualité. Et puis, on a vite trouvé, ça s'est un petit peu essoufflé comme motif. Mais il y a un motif qu'on retrouvait souvent dans les cartes postales anciennes, ce sont les amoureux. Et alors, au départ, dans les années 20, c'était donc des cartes postales qui étaient même pas en noir et blanc, qui étaient en sépia.
Oui, elles sont un peu colorisées, par
mais
contre.
Voilà, voilà, elles sont recolorisées. Et souvent, on voyait un couple et ils se disaient
des petits mots
gentils
doux
qui étaient dans le bas de la photo.
Alors, et c'est aussi l'époque où on envoie des petits bouquets de violettes, hein, aussi.
Certainement. Ah. Là, les fleurs sont recolorisées en rose et on s'aperçoit d'ailleurs que le timbre est collé sur la photo. Et on a un monsieur qui dit à une dame qui est très joliment habillée avec beaucoup de froufrous, beaucoup de fleurs dans les cheveux, « Madame, cette tasse est comme vous. Elle est pleine de bonté. »
Wow.
C'est écrit en toute pièce, hein. Mais il y a des petites choses.
Flatteur,
voilà. Mais c'était, il y avait des petites choses très, un peu comme nous deux, le journal de nous deux. Pour prolonger encore leur entretien galant, quelquefois elle apporte avec un air charmant une tasse de thé. Bon, j'en ai comme ça plusieurs, mais je vais pas toutes vous les lire.
Alors, ce qui est très drôle, c'est de voir effectivement les couples, la manière dont ils sont habillés.
Oui, le monsieur est très habillé.
Ouais, très chic.
Déjà... Et puis, il a lui aussi la petite fleur rose.
En boutonnière.
À la boutonnière, voilà. Évidemment, le problème maintenant, c'est qu'on n'a plus de support papier pour les cartes.
Bien sûr. Ouais,
ça part par Internet. On les choisit, on les expédie. Mmh. Mais alors, comment le mettre sur sa cheminée, voire le garder sous son oreiller pour revenir aux cartes postales dont je vous parlais tout à l'heure?
Mais je crois que, justement, les gens reviennent à envoyer leurs vœux quand même par courrier, non? Ça revient un petit peu, non, quand même?
Oui, parce que la lettre, ça a quelque chose d'inégalable. Le support
papier,
ça fait
plaisir.
Ça fait plaisir. Et puis, il y a les cartes postales qu'on envoie pendant les vacances.
Tout à fait.
Il y a eu des époques, notamment après 1936, où pratiquement...
Les fameux congés, voilà.
Oui, voilà.
Les premiers congés payés.
Où tout le monde allait à la mer pour la première fois. Eh bien, les photographes faisaient leurs propres cartes postales. Et on peut dire qu'à Chartres, par exemple, à la boutique de l'Anne qui Vielle, près de la cathédrale, c'était un magasin de photographie.
Et Monsieur Laillé.
Oui, voilà. Et les cartes postales étaient faites à Chartres.
Oui, il était son propre éditeur, photographe et éditeur.
Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on peut aller les retrouver aux archives départementales.
Oui, il y a des très beaux clichés, justement, de la cathédrale et du centre de Chartres à cette époque-là.
Voilà.
Alors, Bernadette, on a effectivement parlé des cartes postales. Alors, on sait que maintenant, les gens sont collectionneurs de cartes. Et comment on procède? On va sur des brocantes? Il y a des bourses? Des bourses d'échange,
hein? Eh bien, il y a les deux, Anne-Sophie. En fait, effectivement, il y a les brocantes avec des vendeurs spécialisés où elles sont bien classées par ordre alphabétique sur le nom des communes ou sur les thèmes. Et puis, il y a aussi les bourses aux collectionneurs. On en avait parlé des bourses des collectionneurs au moment des fèves. Mais les cartes postales, c'est pareil. On les trouve dans les bourses aux collections. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire des échanges.
Tout à fait. Oui. Et puis, ça permet, effectivement, quand on est natif d'une région ou d'un lieu, de retrouver, effectivement, les lieux peut-être connus par nos grands-parents, nos familles.
Exactement.
Alors que ce soit des châteaux, des monuments, des quartiers, hein, de ville. On a aussi, effectivement, maintenant des collections sur les grandes stations balnéaires de l'Atlantique, mm-hmm, ou de la Manche. Et c'est vraiment nostalgique, mais
oui,
c'est intéressant.
Mais je vois chez nous, le grand-père parlait souvent de la caserne Molitor à Argentan, où il avait été mobilisé. Et quand on est parti habiter à Argentan, c'est avec grand plaisir qu'on a retrouvé des cartes postales de la caserne Molitor.
Voilà, parce que ça rappelle des souvenirs d'enfance.
Voilà.
Merci Bernadette, à très bientôt.
Allumer les postes de télévision, verrouiller les portes des conversations, oublier les dames et les jeux de cartes, endormir les fermes quand les jeunes partent. briser les lumières des ruelles en fête. Refroidit le vin brûlant les assiettes. Emporter les mots des serveuses aimables. Et disparu les chiens jouant sous les tables. Déchirer les nappes des soirées de noces. Oublier les fables du sommeil des gosses. Arrêter les valses du dernier jupon. Et les fausses notes des accordéons. C'est un rameau perdu sous les étoiles, avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales. Et sur le vieux buffet, sous la poussière grise, il reste une carte postale, goudronner les pierres des chemins tranquilles, relever les herbes des endroits fragiles, déserter les places des belles foraines, assécher les traces de l'eau des fontaines, oublier les phrases sacrées des grands-pères, aux âtres des grandes cheminées de pierre. Et allumer les postes de télévision. C'est un rameau perdu sous les étoiles, avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales. Et sur le vieux buffet, sous la poussière grise, il reste une carte postale. Envoler les robes des belles promises, les ailes des grillons, les paniers de cerises, oublier les rires des nuits de moisson, et allumer les postes de télévision.
Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Mm-hmm.